Et jusqu'à 9h, l'invité de France Inter est le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, a pour la première fois pris la parole publiquement hier. C'était dans le JDD, prise de parole sur la crise du lait contaminé. Il dit qu'il n'y a pas eu de la part de son entreprise, de son groupe, de manquement. Avez-vous été convaincu par ces premières et tardives explications ?
Tardive, on peut le dire, pas convaincu du tout.
Pourquoi ?
Pas convaincu du tout, parce que c'est un phénomène qu'on constate dans de nombreuses entreprises. La loi du profit prime sur autre chose, le respect du travail, parce que nous faisons bien la différence entre la parole du PDG et la situation des salariés. Il faudrait éviter la tentation que peuvent avoir certains de mettre tout le monde dans le même sac, si je puis dire. Et donc je dis, le principe de précaution n'est pas respecté quand la loi du profit est en jeu.
Et donc, mais quel rapport entre la loi du profit et la salmonelle sur le sol d'une usine ?
Eh bien, quand on ne permet pas aux travailleurs, aux salariés, de bien faire leur travail, c'est-à-dire d'appliquer un certain nombre de règles fondamentales. Et on parle de Lactalis, mais c'est valable dans de nombreuses entreprises. Quand on leur dit, bon, ça, tu dis rien, on verra plus tard, eh bien, il arrive ce qu'il arrive. Et donc, c'est bien au nom de la rentabilité qu'on ne prend pas un certain nombre de mesures qui permettraient d'éviter ce genre de crise.
Mais c'est une information là que vous nous donnez, Philippe Martinez, ou c'est au doigt mouillé que vous dites patrons disent n'allez pas nettoyer les sols.
J'ai pas dit tous les
parce que ça coûte cher.
J'ai pas dit tous les patrons, mais un certain nombre de patrons de grands groupes. Ça c'est la première chose. C'est ce qu'on constate dans de nombreuses entreprises. Alors avec des effets qui se voient moins parce que toutes les entreprises ne font pas de l'agroalimentaire. Et puis, j'ai entendu des paroles de salariés, et vous avez sans doute entendu des paroles de salariés qui expliquent très bien la pression qu'on leur met pour, entre guillemets, fermer les yeux sur des règles fondamentales de bonne vie de l'entreprise.
Philippe Martinez, indemniser les victimes, comme l'a proposé, il a indiqué, Emmanuel Beignet, suffisant ?
Non. Non,
il faut enquêter.
Il faut enquêter, évidemment, voir où sont les dysfonctionnements et surtout libérer la parole de ceux qui travaillent. Ils ont certainement, eux, des explications à donner. C'est pour ça que nous demandons des nouveaux droits pour les travailleurs et les travailleuses, c'est-à-dire les laisser parler de leur travail et expliquer pourquoi, par un certain nombre de consignes qu'on leur donne, eh bien, ils ne font pas bien leur travail et ça peut avoir ce genre de conséquences. Donc, de nouveaux droits, la liberté d'expression, plus de liberté d'expression, c'est le principe, par exemple.
C'est une entreprise très secrète, comme on dit. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais secrète parce que c'est la culture ou secrète, d'après vous, parce qu'on empêche de parler ?
Je ne connais pas suffisamment cette entreprise, mais globalement, je vous le dis, plus généralement, dans les entreprises, il y a un certain nombre de sujets qui sont tabous, et notamment sur le principe de précaution en matière de sécurité, etc. Et c'est pour ça qu'il faut libérer la parole de ceux qui travaillent, leur donner la possibilité de dire non quand il peut arriver ce genre de débat. Et il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui sont très très pointus. Bah, pourquoi ça ne peut pas se faire plus généralement pour l'ensemble des salariés ?
Deux questions encore sur le sujet. L'État a-t-il failli ? Et en disant cela, je pense aux outils de contrôle de l'État, la DGCCRF. Sont-ils trop faibles, ces outils ?
Il faut... Oui, l'État a aussi réagi tardivement. Quand il a mesuré que la crise était importante, l'État a réagi. Mais oui, il faut renforcer des contrôles. C'est-à-dire qu'il faut aussi plus de moyens pour les services publics. Et il faut aussi que dans les lois que met en œuvre le gouvernement, je l'évoquais tout à l'heure, plutôt que de faire en sorte de contourner les syndicats, de faire en sorte de donner plus de pouvoir aux responsables d'entreprise, eh bien on donne aussi un certain nombre de pouvoirs aux salariés, notamment sur la façon de bien faire leur travail.
Les salariés de l'usine de Cran sont au chômage technique. Est-ce que la CGT peut faire quelque chose pour eux ou a quelque chose à leur dire ?
En tout cas, la CGT n'est pas présente sur ce site, malheureusement. En tout cas, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils ne sont pas responsables. Et donc, ils ne doivent pas payer les conséquences d'une stratégie pour le moins douteuse de l'entreprise. Il faut que le chômage, et je crois que c'est le cas, soit payé intégralement, c'est-à-dire le chômage technique soit payé intégralement, qu'il n'y ait pas de mutation forcée. comme il pourrait y en avoir, et puis qu'on, dans le cadre d'une reprise, parce qu'il faut qu'il y ait reprise, on se donne tous les moyens, et on leur donne tous les moyens en matière d'emploi, en matière de sécurité, pour qu'ils puissent bien faire leur travail.
Après la bataille perdue des ordonnances, vous aviez déclaré, Philippe Martinez, que la bataille se jouerait désormais dans les entreprises. Quand on voit les ruptures conventionnelles collectives, un certain nombre d'entre elles sont annoncées, que pouvez-vous réellement faire ?
Je me permets d'ailleurs d'abord de vous signaler que rupture conventionnelle collective, ça n'était pas dans le programme du candidat Macron. C'est une mesure que nous avons appris très tardivement, là aussi, puisque ça a été annoncé le 31 août, en même temps que ça a été annoncé à la presse, que le décret est tombé à la fin de l'année et que c'est la première mesure qu'appliquent les patrons. Ça méritait d'être signalé.
Voilà pour la genèse.
Voilà, mais c'est important de le rappeler. La deuxième chose, c'est expliquer que, comme nous l'avons dit, ces ruptures conventionnelles collectives, c'est une façon de contourner le débat avec les organisations syndicales et les salariés, de licencier, parce que ce sont des licenciements, à bon compte, j'allais dire. Je peux prendre l'exemple de PSA, qui va afficher dans quelques semaines des résultats exceptionnels. Eh bien, on a une procédure accélérée. On dit que c'est sur la base du volontariat et ça évitera de se justifier quand les milliards tomberont dans les poches des actionnaires de justifier ces suppressions d'emplois. Mais vous avez remarqué que quand il y a du rapport de force, et c'est le cas chez Pinky, avec des syndicats qui...
Voilà, ils n'ont pas été contournés là.
Ben, heureusement. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, quand on vous dit soit vous acceptez, soit on ferme une usine... Le choix est difficile et on l'a déjà vu dans d'autres circonstances.
Sur la rupture conventionnelle collective, les syndicats ont donc remporté une manche chez Pinky. Ça ne veut absolument pas dire que l'emploi y sera préservé.
Évidemment.
Il pourrait y avoir autre chose derrière.
Évidemment, mais ça a le mérite de reposer un certain nombre de données sur la table. Quelle est la situation réelle, financière réelle de Pinky ? Il y a une différence entre la situation française et la situation dans d'autres pays, ce qu'on appelle la croissance externe, cette volonté des entreprises d'aller s'implanter un peu partout, ça a des conséquences financières. Donc ça peut remettre sur la table un certain nombre de problèmes. Et puis, on prendra le temps d'examiner, point par point, la situation des salariés et puis de trouver d'autres solutions.
Croyez-vous et craignez-vous, comme Laurent Berger de la CFDT, que les seniors soient particulièrement visés par ces ruptures conventionnelles collectives ?
C'est évident. C'est évident.
Pourquoi ?
Parce que c'est une façon simple de dire à un certain nombre de salariés, bon, vu l'âge que vous avez, partez, vous toucherez le chômage, et puis on vous embêtera pas sur une recherche d'emploi. Et puis ça permet de renouveler des salariés en les payant moins cher, parce que l'ancienneté, ça se paye, la compétence, ça se paye. Et puis c'est aussi une possibilité de revoir les contrats de travail. On peut faire partir quelques CDI, et ils sont nombreux chez PSA, par exemple, et puis continuer à cette politique de travail précaire. Vous le savez, chez PSA, on estime à 15% le nombre d'intérimaires et de précaires, et dans les ateliers, ça monte jusqu'à 60-70%, vous voyez.
Philippe Martinez, 2017 a été une année où partis traditionnels et une grosse partie du personnel politique ont été rayés de la carte, ou presque. Est-ce que vous pensez que les syndicats sont les prochains sur la liste ? Qu'est-ce qui vous protège de l'ubérisation ?
Le problème, c'est pas l'ubérisation, c'est la volonté du gouvernement, et on l'a vu dans les ordonnances, de contourner chaque fois que c'est possible les organisations syndicales.
Donc vous êtes affaibli là ?
Évidemment. Quand on donne la possibilité de négocier sans les syndicats, ça veut dire que les syndicats, on n'en veut pas. Et on peut parler de dialogue social à longueur de journée. C'est la réalité. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas une responsabilité. Et je pense que nous manquons d'ambition, pour aller... Des ambitieux, il doit y en avoir, mais peu. Nous manquons d'ambition pour aller voir ces nouveaux travailleurs, ce qu'on appelle les nouveaux travailleurs. Ouais. Et ils nous attendent. Ce qui est pas normal, c'est qu'ils nous attendent. Allons les voir. Et on a des expériences intéressantes chez les livreurs à vélo, par exemple, qui veulent des droits et qui disent « il nous faut des syndicats ».
Est-ce que sur le plan historique, vous vous posez, comme Laurent Berger de la CFDT, la question du caractère mortel ou non des syndicats ?
Si. Nous ne mesurons
pas... On ne l'imaginait pas pour les partis politiques classiques et anciens.
Si nous ne nous adressons pas à la diversité du monde du travail, oui, il y a un risque. Mais comme on en a pris conscience, peut-être un peu tardivement, et qu'il y a des expériences intéressantes, je suis optimiste.
Notre pays est en train de perdre son âme sur la politique des migrants. Je cite là encore Laurent Berger. Vous diriez les choses de la même manière ?
De la même manière, exactement de la même manière. C'est scandaleux. C'est-à-dire que ces gens en souffrance, parce qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. Ils viennent pas ici en vacances. Ils sont victimes de guerre, de misère. Eh bien, ce qu'on leur propose, c'est de faire du tri et de considérer qu'il y aurait des bons et des mauvais. La France a un vrai devoir.
Les réfugiés d'un côté, les migrants économiques de l'autre. C'est la ligne de partage.
Et encore, dans les réfugiés, il y aurait les bons réfugiés et les mauvais réfugiés. L'histoire de notre pays et le devoir de notre pays, c'est d'accueillir des gens qui sont dans la souffrance.
Tous, quels qu'ils soient et quel que soit le nombre.
Les accueillir tous, pour accueillir dans de bonnes conditions. On peut pas supporter qu'il y ait des gens qui meurent de froid. Vous avez vu ces images de migrants qui traversent les Alpes dans la neige, à peine vêtus d'un t-shirt. C'est scandaleux. Les accueillir, les loger. Et on a tous, tout le monde.
Écoutez, tous ceux qui se présentent.
Mais vous savez bien que ça représente pas un chiffre considérable. Toutes les statistiques le montrent. C'est pas considérable. Mais est-ce qu'on laisse mourir dans la neige? Est-ce qu'on les laisse mourir sur les plages? C'est ça la question. On a un devoir d'accueil. Après, on regarde comment on fait. Et on a une expérience. Les travailleurs sans papier, par exemple, c'est pas un phénomène nouveau. Et la CGT a une fierté d'exiger leur régularisation. Ils payent des impôts, ils travaillent, ils payent des cotisations sociales et on les montre du doigt. Donc oui, c'est scandaleux, cette politique de tri sélectif, si vous me permettez l'expression, que veut faire le gouvernement.
Vous connaissez, on va laisser la parole à Claude Haskolovitch pour la revue de presse, la phrase prêtée à Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part.
La question, c'est pas d'accueillir toute la misère du monde, c'est d'accueillir les gens qui sont ici, et ça représente pas des millions de personnes, vous le savez très bien, la France n'est pas le premier pays d'accueil. Les plus grands migrants, les plus grandes migrations, ce sont à l'intérieur des continents, je crois qu'en Afrique, c'est là où il y a le plus de migrants de pays à pays.
À tout de suite, Philippe Martinez, on vous retrouve après la revue de presse.